rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce 27 novembre, c'est une émission spéciale. Une émission spéciale qui nous prépare au Nouvel An qui commence samedi, oui, le Nouvel An liturgique, le Nouvel An des catholiques. Notre année liturgique, qui est la seule véritable au fond, est établie sur une révélation, sur les évangiles, sur quelqu'un qui est Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons parler des évangiles et nous allons nous poser avec Pierre Découvement, l'abbé Pierre Découvement, la question clé. Les évangiles sont-ils fiables? Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. L'abbé Pierre Découvement a publié aux éditions du Cerf un ouvrage retentissant, à mon avis, « Guide des difficultés de la foi catholique ». Et je m'inspire donc de ce volume énorme. On sait que, dès le début de l'Église, les chrétiens se sont rendus compte que dans les évangiles, il y avait des incohérences. Oui, oui, des incohérences. Ça peut blesser les gens qui sont attachés à la lettre et qui s'imaginent que tout ce qui est dit dans les évangiles, de façon précise et exacte, est vrai. Or, on a bien dans l'évangile de Saint Matthieu un centurion, le centurion de Capharnaüm, où est né le christianisme, où est né, n'est-ce pas, c'est là qu'habitait Saint-Pierre, c'est là que Jésus a prononcé ce merveilleux sermon sur le mont qu'on appelle le mont des Béatitudes, c'est là qu'il a appelé ses apôtres, c'est Capharnaüm qui est au cœur, au fond, de la naissance de notre foi. Et alors, le centurion romain, païen, de Capharnaüm, vient trouver lui-même Jésus, lui-même. Et il lui dit, « Maître, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une parole, et mon serviteur, ou si vous voulez, mon enfant, sera guéri. » On dit toujours cette parole avant de communier, c'est tellement beau. Hein? Et chez Luc, lui, dans l'évangile Saint-Luc, le centurion envoie vers Jésus quelques-uns, dit le texte, des anciens des Juifs pour le prier de venir. Alors ce sont eux qui rapportent à Jésus la réflexion de l'officier romain, du centurion, et alors, qui croire? Est-ce que c'est Luc qui a raison ou si c'est Matthieu? Est-ce que le centurion est venu ou non rencontrer Jésus? Bon. C'est des questions de détail. Mais il y a des générations entières de chrétiens qui ont vécu, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le respect sacro-saint du texte évangélique. On y prenait tout à la lettre. Il n'y a pas si longtemps, le best-seller là, de Daniel Rops, Jésus en son temps. Les gens d'un certain âge, on a tous lu ça. Hein? Jésus en son temps de Daniel Rops. Mais ça a donné aux chrétiens des années 50 là, la joie de se représenter la vie de Jésus, sinon jour après jour, du moins dans ses grandes étapes et dans son contexte historique, tout ça d'après les évangiles et les textes de l'époque. N'étant bien changé. Il y a tout un vent de soupçon hein, qui souffle sur nous au XXe siècle. Nous avons été marqués, plus ou moins, par une thèse très importante de l'exégète allemand Rudolf Bultmann, que fréquentait assez Hans-Urs von Balthasar, et qui a écrit un livre sur Bultmann d'ailleurs. Bultmann, ce protestant, est mort en 1976. Il affirmait qu'on ne peut pas remonter du Christ de la foi au Jésus de l'histoire. Bon, je m'explique. Selon lui, les écrits du Nouveau Testament nous feraient connaître un Jésus qui serait, d'après lui, revu puis embelli par les premières communautés chrétiennes. Et puis le Christ, tel que ces communautés y croyaient, ben c'est celui-là qui nous est révélé, prétend-il, dans les évangiles. Nous, aujourd'hui, bien nous serions dans l'impossibilité radicale, selon Bultmann, de connaître le vrai Jésus historique tel qu'il a réellement vécu sous Ponce Pilate. Ce qui n'est pas grave du tout, pensait ce grand théologien protestant, Bultmann. Car, il disait, notre foi n'a pas à s'embarrasser du Jésus de l'histoire. Elle ne s'adresse qu'au Christ de la foi, prétendait-il. Annoncé par les premiers chrétiens. Mais attention, attention, c'est pas si simple que ça. Beaucoup de chrétiens Mais c'est dommage, même des catholiques aujourd'hui sont impressionnés par tout ce que Bultmann a dit, puis par tout ce qu'ils ont lu ici et là au sujet des évangiles. J'en connais beaucoup. Ils se demandent, par exemple, s'ils peuvent encore considérer comme authentiques, là, vous savez, les miracles, les guérisons racontées par les évangiles. Ils se posent des questions sur la scène de la multiplication des pains. Je vous ai dit que ça existe encore au 20e siècle, des multiplications de pains. Vérifiées et authentifiées. Oui, durant la dernière guerre, dans des périodes de famine et de difficultés. C'est survenu en France. C'est survenu ailleurs, d'ailleurs. Il y a des récits authentiques, mais on dira, on hausse les épaules et on prétend que ce n'est pas vrai. Mais oui, ça existe. Et le discours de Jésus à Capharnaüm, justement, sur le pain de vie, on se demande si c'est vrai. Pourtant, c'est si beau. Et les annonces faites par Jésus de sa passion et de sa résurrection future, etc. On peut se poser la question avec ces gens-là, s'il reste des passages de l'Évangile à prendre encore à la lettre comme parole d'Évangile, ça devient dramatique. Ils nous font croire que tout ça n'est qu'une grande et belle légende, mais une belle légende à laquelle il est bon de conformer sa vie. Bah. C'est très important le problème. Hein? Et quoi qu'en pense, à mon avis, Rudolf Bultmann, la foi chrétienne, ce n'est pas simplement l'adoption des idées de Jésus, telles qu'elles ont pu être interprétées là, par ses premiers disciples. Non, 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 non. La foi chrétienne, et ça, écoutez bien, c'est bien important, c'est l'adhésion à la personne même de Jésus, né de la Vierge Marie à Bethléem de Judée et crucifié à Jérusalem sous Ponce Pilate. C'est ça que notre belle année catholique, liturgique, chrétienne va célébrer. Nous commençons samedi soir à la tombée du jour avec les premières messes du premier dimanche de l'Avent. La foi chrétienne, c'est donc l'adhésion à la personne même de Jésus, dont nous allons célébrer la naissance, évidemment, dans moins d'un mois. Né de la Vierge Marie à Bethléem, de Judée, et crucifié à Jérusalem sous Ponce Pilate. Admettons que s'il n'est pas né à Bethléem, ça n'est pas si important. On sait qu'il a été crucifié à Jérusalem, c'est sûr. Ce qui compte, c'est qu'il y c'est la personne même de Jésus à laquelle nous adhérons. C'est lui qui nous intéresse, que nous regardons. Oui, que nous regardons, que nous écoutons. Mais comme disait le père de Foucault, Charles de Foucault, dont ce sera bientôt l'anniversaire de l'assassinat, le 1er décembre. Prier, c'est penser à Jésus en l'aimant. Oui, prier, c'est penser à Jésus en l'aimant. Mais encore faut-il pouvoir le connaître, puis le connaître vraiment, lui, Jésus, c'est évident. C'est évident que tous les chrétiens ne sont pas obligés d'entreprendre là, une grande enquête historique détaillée sur Jésus pour le suivre et l'aimer. Et même ceux qui ont mené à bien cette étude, ils n'y pensent pas à chaque instant. Réfléchissons deux secondes. On n'habite pas une maison en vérifiant sans cesse là, la solidité de ses fondations. Il arrive même souvent qu'on fasse confiance à un expert qui nous certifie les avoir examinés avec soin et n'y avoir rien trouvé d'anormal. On se fie à cet expert. Et c'est ce que font avec raison la plupart des chrétiens. Ils se fient aux experts en sciences bibliques, qui ont examiné la question avant eux et pour eux. Mais pourquoi tant de gens vont vers des gens comme Gérard Messadier plutôt qu'aux auteurs sérieux et compétents? Je me le demande. Il est vrai que la télévision et la radio et les journaux nous vantent les auteurs qui critiquent et qui nient les négateurs et non pas les autres. Les chrétiens, il me semble, doivent avoir une petite idée des recherches effectuées par les vrais savants, de leur méthode de travail, de leurs conclusions, puis des questions qui restent en suspens aussi, afin d'avoir quelque chose à répondre lorsqu'ils sont violemment pris à partie par leur entourage ou bien par la télévision justement et la radio et les journaux et les revues. Tous ces gens qui répètent comme un slogan, sans savoir ce qu'ils disent, L'Évangile n'est qu'un tissu de légende. Or que ça me fatigue, que ça me fatigue! J'aimerais montrer que loin d'être un ensemble de livres contestables historiquement, bien le Nouveau Testament est du point de vue scientifique un ensemble de documents de très grande valeur. Bon, on va parler tout d'abord des manuscrits anciens. On n'a évidemment pas retrouvé l'original des lettres écrites par saint Paul aux Thessaloniciens ou aux Corinthiens. Bon, pas plus qu'on a retrouvé l'original des lettres de Cicéron, oui, oui, ou les annales de Tacite. Mais nous avons la chance, nous, d'avoir des manuscrits très anciens et très nombreux de tous les écrits du Nouveau Testament. Exemple, à la bibliothèque Rylands, à Manchester, en Angleterre. Bon, ça donne sur le golfe de l'Irlande, là, du côté de l'Irlande, c'est Manchester. On conserve deux fragments de papyrus datant de la première moitié du deuxième siècle, donc entre l'an 100 et 150. Sont copiés sur ces deux fragments deux passages de la Passion selon saint Jean. C'est le texte même. Plusieurs parchemins du IIIe siècle, donc entre 200 et 300, comportent différents passages du Nouveau Testament, puis nous avons aussi deux copies complètes, je dis bien complètes, du Nouveau Testament écrites au IVe siècle, donc dans les années 300. Il y a le Vaticanus, on lui a donné ce nom-là parce qu'il est conservé à la Bibliothèque Vaticane, semble bien être l'un des exemplaires que vers l'an 340, l'empereur Constantin a reçu de l'évêque Athanase, puis il y a le Sinaiticus qui est conservé à Oxford, lui. Il n'y a donc que trois siècles d'écart entre la rédaction des écrits du Nouveau Testament et les premiers manuscrits complets, je dis bien complets, que nous en possédons. Ce n'est rien à côté des siècles qui, pour tous les classiques de l'Antiquité, séparent l'original de la plus ancienne copie connue. Exemple, il y a 1600 ans, je dis bien 1600 ans, pour les tragédies d'Euripide et les œuvres poétiques de Catulle. 1400 ans séparent les tragédies de Sophocle et d'Eschyle et les comédies d'Aristophane des plus anciens manuscrits qu'on a. 1300 ans pour les dialogues de Platon. 1200 ans pour les discours de Démosthène. C'est quelque chose. On a retrouvé de très anciennes traductions des évangiles en syriaque, en copte, en arménien, en géorgien. Et en effet, dès les débuts de l'Église, les chrétiens ont traduit les évangiles pour pouvoir les lire dans leur langue maternelle. Alors, les confrontations qu'on peut faire de ces différentes copies, mais tout ça, ben, ça permet d'établir le texte qui se rapproche le plus de l'original. Il arrive qu'un copiste modifie l'orthographe, bon, il fait des petits changements. Mais tout ça, ça ne porte que sur 1/8 de l'ensemble et les variantes substantielles, je dis bien les variantes là, importantes, sur 1/1000. Puis encore, les variantes substantielles qui modifient le sens de la phrase, sont très légères, très, très légères. Hein? Pff, c'est des affaires vraiment au fond secondaires, qui n'ont guère d'importance. En somme, tous les historiens, croyants ou non, rappelons-nous ça, tous les historiens croyants ou non sont donc obligés de reconnaître qu'aucun livre de l'Antiquité ne nous a été transmis dans d'aussi parfaites conditions que l'ensemble des livres du Nouveau Testament. Oui, tous les historiens croyants ou non, je le répète, sont donc obligés de reconnaître qu'aucun livre de l'Antiquité ne nous a été transmis dans d'aussi parfaites conditions que l'ensemble des livres du Nouveau Testament, donc les évangiles, les épîtres, les actes des apôtres, l'Apocalypse. Oui, on peut être très fier de l'ancienneté des textes que nous avons, et c'est fiable. Que d'heures j'ai passé dans ma jeunesse à écouter la Passion selon saint Jean puis la Passion selon saint Matthieu. Ces textes magistraux, qui sont confirmés, je vous le dis, on rira de moi, mais ça ne me dérange pas, qui sont confirmés, les textes de la Passion, par le Saint-Suaire de Turin, par cet objet qui est authentique, je vous l'assure. Toutes les preuves sont là. On a des tas de preuves de l'authenticité de ça. Or, c'est conforme aux textes de la Passion dans les évangiles. C'est une preuve. Une grande preuve, qu'on dise ce qu'on voudra. Pour connaître les auteurs du Nouveau Testament, comme pour connaître l'auteur de n'importe quel ouvrage, il y a deux façons. on peut voir les allusions faites aux évangiles puis les autres écrits du Nouveau Testament là, par des auteurs très anciens. Je vous en cite quelques-uns, je ne veux pas m'étendre là-dessus, c'est trop compliqué. Mais disons que Papias, par exemple, l'évêque d'Hériapolis au IIe siècle, en Phrygie, était un auditeur de l'apôtre Jean. Il écoutait, entendu, Saint Jean. Un compagnon de Polycarpe, dont je vous ai déjà parlé. Il a composé vers l'an 130 une explication des paroles du Seigneur dans laquelle il attribue à l'apôtre Matthieu des passages de notre premier évangile, soit justement celui de Saint Matthieu. Il y a d'autres détails. Bon. D'autres critères aussi pour comprendre. En analysant de près les textes, on peut vérifier que Luc était médecin. Ça se vérifie, ça. La tradition nous dit qu'il était médecin. Or, il parle de guérison, lui, en employant de nombreux termes techniques qui indiquent qu'il connaissait la médecine. Il était le compagnon de voyage de Paul. Alors, quand on regarde les chapitres des Actes des Apôtres qu'il a écrit, lui, Saint-Luc, il utilise la première personne du pluriel pour évoquer les voyages de Paul. Il dit « nous ». C'est une identité typique des écrits de Saint-Luc dans les Actes des Apôtres. Et ça, c'est typique aussi de la théologie de Saint Paul. C'est conforme. Ce qu'il y a dans les Actes des Apôtres est conforme à la pensée de Saint Paul. Puis il parle de la vie de Saint Paul puis des voyages de Saint Paul. En somme, il est à la fois l'auteur du troisième évangile et des Actes des Apôtres, et le style, de plus, est identique. Alors, il est facile de prouver. De la même manière aussi que Marc... Saint-Marc était très lié à Saint-Pierre, d'où le récit très, très circonstancié. Vous savez, le triple reniement au moment de la Passion là, de Saint-Pierre. Saint-Pierre renie Jésus trois fois. Puis le récit aussi de l'omission des traits qui mettent Pierre en valeur. Hein, la marche sur les eaux, l'annonce de la primauté de Pierre sur l'Église. On peut, par la même analyse interne, là, classer les différentes lettres de Paul en suivant l'évolution de leur style puis de leur théologie. Puis on s'aperçoit aussi, saviez-vous ça, toujours de la même méthode, que la lettre aux Hébreux n'est certainement pas de Paul parce que le style n'est pas le sien. L'épître aux Hébreux n'est pas de Saint Paul. Il y a la date de composition aussi, mais je passe par-dessus rapidement. Il y a toute une dispute là-dessus, j'ai beaucoup d'ouvrages là-dessus. Bon, je vais vous résumer ça en une minute et demie. Selon l'opinion de la plupart des exégètes actuels, la rédaction définitive des évangiles s'est faite au moins 30 ou 40 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Cette opinion, plutôt généralisée, a été contestée récemment par quelques auteurs, des auteurs sérieux quand même, qui estiment que nos évangiles sont la traduction grecque de textes beaucoup plus anciens rédigés en hébreu. Pour eux, tous les écrits du Nouveau Testament doivent être datés entre l'an 42 et l'an 68. 42 pour l'épître de Saint-Jacques, qui est si belle. Oh, il faut lire ça. Et l'an 68, donc 26 ans plus tard, pour l'Apocalypse, le dernier texte du Nouveau Testament. Ça, c'est l'opinion d'un évêque, Mgr Robinson, un évêque anglican, qui écrit « Peut-on se fier au Nouveau Testament ?» pub paru chez Le Tielu en 1980. Il a publié aussi « Redater le Nouveau Testament », toujours chez Le Tielu, en 1987. Il y a Claude Trémontant que j'avais interviewé à Rencontre à la télévision. Il va même, lui, jusqu'à penser que les apôtres ont pris des notes pendant la prédication de Jésus, tout comme l'avaient fait en leur temps les disciples du prophète Amos et du prophète Osée dans l'Ancien Testament, puis du prophète Isaïe, puis du prophète Jérémie. Alors, il y a aussi un autre argument, selon Claude Trémontant, puis Jean Carmignac, l'abbé Jean Carmignac, puis Mgr Robinson, en faveur de l'ancienneté de la première rédaction de l'Évangile de Saint Matthieu. Ils disent tous, on n'y trouve aucune allusion à deux événements qui ont profondément marqué la vie puis la conscience des premières communautés chrétiennes, soit la ruine de Jérusalem en 70, puis la persécution des chrétiens par Néron, dans les années 64-65. Mais ça, c'est moins sûr. Le livre de Claude Trémontant s'intitule « Le Christ hébreu », paru aux éditions de l'Œil en 83, et le livre de Jean Carmignac c'est la naissance des évangiles synoptiques aux éditions de l'Œil en 84. J'ai tout ça dans mes bibliothèques, j'ai lu ça. C'est très convaincant à certains moments, mais, il faut lire aussi le père Pierre Grelot, jésuite, professeur d'écriture sainte à l'Institut catholique de Paris, un très bon spécialiste de l'araméen. Lui s'est ingénié à montrer que les arguments avancés par ces trois auteurs ne sont nullement convaincants. Alors, le livre du père Grelot, c'est « Évangile et traditions apostoliques », puis paru au Cerf en 84, etc., etc. Il y a beaucoup d'autres livres. Bon, passons. Une question fondamentale. Quelle valeur pouvons-nous accorder là, au témoignage que les quatre évangéliques nous donnent sur Jésus et ses apôtres? Est-ce qu'ils sont des témoins bien informés? Est-ce qu'ils sont des témoins sincères? Bon, pour l'information, on peut vérifier qu'ils étaient des témoins certainement très bien informés ou qu'ils nous transmettent certainement des témoignages de personnes bien informées en tous les cas. Il suffit de se livrer un travail de comparaison, hein? Les hommes, les femmes que nous voyons évoluer dans les évangiles, est-ce qu'ils correspondent bien à ce que nous savons par ailleurs des personnages de l'époque? Est-ce qu'ils suivent les coutumes en usage dans ce temps-là? Prenons quelques exemples. Les évangélistes n'ignorent rien des usages de l'époque. Le pèlerinage des enfants à Jérusalem à partir de leurs 12 ans. Les trois grands pèlerinages de l'année, Pâques, Pentecôte, puis la fête des tentes. Et puis la façon de lire la Bible à la synagogue. Bon, j'ajoute l'interdiction pour un juif d'entrer chez un païen, interdiction que Jésus a toujours respectée, hein, sauf au prétoire de Pilate où il entre, mais en prisonnier, etc. Bon, les évangélistes, d'autre part, sont parfaitement au courant des personnages de l'époque tels que nous les décrivent d'autres sources. Hein. La cruauté d'Hérode le Grand qui est signalée par Saint Luc. Oh, l'administration de la Judée par Ponce Pilate, le mépris des Juifs pour les publicains et les Samaritains, etc., etc. Il y a aussi la sincérité des témoins. Il s'agit de vérifier que les évangélistes ont été sincères, qu'ils n'ont pas enjolivé les paroles puis les gestes de Jésus pour le mettre en valeur. C'est tout le problème de Rudolf Bultmann, le théologien protestant dont je vous ai parlé au début. Les évangiles ont été rédigés à l'intérieur de communautés chrétiennes qui croyaient depuis plusieurs décennies, des dizaines d'années, au Christ ressuscité, oui. Alors, en conséquence, les évangélistes, les rédacteurs de ces évangiles, ils n'ont pas eu spontanément tendance à harmoniser les faits et gestes de Jésus avant sa résurrection, avec ce qu'ils savaient désormais de lui. Non, non. Les évangélistes ont-ils su résister à la tentation d'attribuer à Jésus des phrases solennelles qu'en réalité il n'a jamais prononcées? Par exemple, Matthieu met sur les lèvres de Jésus, le jour de son ascension, la formule qui fut employée par la suite pour le baptême des chrétiens, « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », mais pourtant, on voit mal Jésus dire lui-même « et du Fils ». Bon, ça pose un problème. Mais alors, quand pouvons-nous estimer nous trouver devant un épisode évangélique ou un discours de Jésus authentique? Mais dans les évangiles, Jésus dit à ses apôtres que personne ne connaît le jour ni l'heure de l'avènement du Fils de l'homme, pas même le Fils, personne sinon le Père. Voilà une phrase, moi, qui m'a toujours gêné un peu, mais ça semble en contradiction avec l'idée qu'on se faisait du Christ dans les communautés chrétiennes. On disait, il est le Fils unique, il sait tout. Et cette parole rapportée par Matthieu n'est certainement pas une création de ces communautés, parce que ça diminue le Christ. C'est qu'il parle en tant qu'homme. Pas plus que la scène de Gethsémani où nous voyons Jésus qui a peur devant la mort. On montrerait aisément de la même façon que les petits côtés des apôtres, vous savez, leurs petites chicanes, les reniements de Saint-Pierre, les ambitions de Jacques et de Jean, les jalousies. Ça n'a certainement pas été inventé, puisque la première communauté vénérait les apôtres. Et s'ils vénéraient les apôtres, pourquoi les diminuer? Dans un beau livre intitulé « Le Nouveau Testament » par Jean Guiton, une nouvelle lecture. Il dit, « Ouvrons maintenant le Nouveau Testament. Quand ces temps atomiques qu'il m'arrive de comparer aux retombées d'une explosion de l'esprit, tel qu'il n'y en eut jamais sur cette planète, tel qu'il n'y en aura jamais. » Vers la fin de son livre, il dit, « Le Nouveau Testament n'est pas l'histoire d'un peuple privilégié. C'est le portrait d'un être qui, venu de l'éternité et sans la quitter, a traversé le temps. » Que c'est beau. Le Nouveau Testament, par Jean Guiton, un petit livre. paru chez Declide de Brouwer. Dans les évangiles, on voit Jésus choisir lui-même ses disciples. Il mange à la table des pécheurs, avant que ceux-ci ne se soient convertis. Il prie Dieu, son Dieu, avec une familiarité inouïe. Comment l'appelle-t-il? Il l'appelle Papa. C'est incroyable. Abba. Ce sont des traits qui n'ont pas pu être inventés, ça, par les disciples qui ont écrit les évangiles. C'était des Juifs. Et cette conduite de Jésus était en effet en complète opposition avec la conduite courante d'un rabbi de l'époque. Pensez-y, les différents disciples qui suivaient des rabbis, ils choisissaient leur maître, c'était pas le maître qui les choisissait. Les prophètes, eux, annonçaient les péchés des hommes, mais ils n'allaient pas manger chez les pécheurs qui n'étaient pas convertis. Et jamais un juif n'aurait osé appeler Dieu papa. La conception qu'ils avaient de Dieu faisait, si vous connaissez les Juifs, et si vous êtes abonné à des revues juives comme je le suis, on n'écrit pas le nom de Dieu, on met des points. On n'écrit pas, de crainte que ça devienne un objet d'adoration. On ne prononce même pas son nom. Dieu est un pur esprit. On va l'appeler papa. Loin d'être un tissu de légende, les évangiles méritent notre confiance. Et plus on les étudie, plus on est frappé par la cohérence entre les gestes et les paroles de Jésus. Un style tout à fait original. C'est ce que nous dit très bien le père René Latourelle dans « L'accès à Jésus par les évangiles » paru chez Bellarmé en 1978, dans les pages 232-233. Je lis le texte du père René Latourelle, un des nôtres. Il vit à Montréal, mais il a été professeur dans la grande université des Jésuites à Rome. C'est un des jésuites les plus brillants de l'Église. Comme nous sommes fiers de l'avoir parmi nous, le père René Latourelle, jésuite. Il y a dans ses paroles, dit le père Latourelle, les paroles de Jésus, un accent de simplicité, de douceur et en même temps d'autorité souveraine. Et ainsi, le même Jésus qui se proclame le serviteur de tous, le bon pasteur, l'ami des pauvres et des petits, est aussi celui qui déclare « Je suis venu, moi je vous dis ». En vérité, je vous le dis, qui construit sur ma parole, va. Ailleurs, il dit, viens. Ailleurs, il dit, suis-moi. Et encore, lève-toi. Marche. Sa parole à Jésus a un accent d'urgence eschatologique, continue le père Latourelle. Il cite, jusqu'ici, on vous a dit, désormais, parle d'autorité, hein? Père Latourelle ajoute une autre parole. Alors on verra le Fils de l'homme. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. En ces jours, la détresse sera telle. Et le Père Latourelle termine en disant non seulement Jésus inaugure une nouvelle époque, l'époque décisive annoncée et attendue par les prophètes, mais il est lui-même, en personne. Le point de convergence de l'Ancien Testament et le commencement de l'eschaton final. C'est-à-dire que Jésus se présente comme celui qui inaugure la fin des temps. L'action de Jésus, donc, ça manifeste les mêmes traits de simplicité puis d'autorité puis surtout de bonté, de compassion envers les pécheurs, tous ceux qui souffrent. Ainsi, la parabole de Luc sur le fils prodigue, que c'est beau ça, décrit l'incompréhensible bonté de Dieu envers les pécheurs. Vous vous souvenez, hein, c'est le père qui court vers l'enfant qui revient. Et avant même que son fils lui demande pardon, il le serre dans ses bras. Mais tout ça justifie en même temps l'attitude personnelle de Jésus qui fréquente les publicains, les pécheurs, qui mangent à leur table. Nous qui jugeons de haut les pécheurs, qu'est-ce qu'on attend pour les embrasser? Qu'est-ce qu'on attend pour leur prendre le bras? Qu'est-ce qu'on attend pour être bon à leur égard? Qu'a-t-on à juger? La même attitude se retrouve dans la parabole de la brebis perdue. Hein? Elle appartient au style de Jésus. Le style des miracles est identique à celui de l'enseignement. Il est fait de simplicité, de sobriété puis d'autorité. Un certain nombre d'exégètes ont prétendu que dans les évangiles, on ne pouvait considérer comme historique que les récits des prédications de Jésus, de son procès puis de sa passion, qui sont comme prouvés par le Saint-Suaire de Turin, et qu'il fallait rejeter comme légendaire tous les récits de miracles. Or, une analyse fouillée du texte des évangiles permet d'arriver à des conclusions totalement opposées. Je reviens pour cela au père René Latourelle. Je vous le rappelle, il enseignait à l'université grégorienne de Rome, l'université des Jésuites, une université internationale extrêmement importante. Et ces deux ouvrages qu'il faut lire si on veut vraiment approfondir la question sont « L'accès à Jésus par les évangiles » paru chez Desclée en 1978, « L'accès à Jésus par les évangiles » chez Desclée et « Miracle de Jésus et théologie du miracle ».« Miracle de Jésus et théologie du miracle » aux éditions du Cerf il y a 10 ans. Il y a beaucoup d'indices hautement favorables à l'historicité globale des miracles évangéliques et l'importance de ces récits dans la trame des évangiles. Ces récits occupent 31%, saviez-vous, 31% de l'évangile de Saint-Marc, 47% des 10 premiers chapitres de Saint-Marc. Les 11 premiers chapitres de Saint-Jean s'articulent autour de 6 grands miracles de Jésus. Ça part des noces de Cana, ça va jusqu'à la résurrection de Lazare à Béthanie. Bien oui. 11 premiers chapitres. L'enseignement de Jésus prend souvent comme point de départ les guérisons, les exorcismes qu'il vient d'accomplir. Il y a des controverses avec les pharisiens qui partent souvent d'un miracle qui vient d'avoir lieu. Dans l'évangile aussi de Saint Jean, il y a l'unité entre l'accomplissement d'un miracle puis l'enseignement de Jésus. C'est évident, ça, hein? Souvenez-vous, en guérissant un aveugle né, Jésus montre qu'il est, lui, la lumière du monde. En multipliant les pains, il nous montre qu'il est le nouveau Moïse, apportant le véritable pain descendu du ciel pour donner la vie en surabondance. Je parlais l'autre jour à un ami très catholique qui ne va pas à la messe sur semaine. Ça ne l'attire pas. Curieux, hein? C'est le corps du Christ vivant. Mon Dieu. Bon nombre de récits mentionnent explicitement le caractère public des miracles de Jésus. Les apôtres y font souvent allusion dans leurs prédications. On voit ça dans les Actes des apôtres, chapitre 2, chapitre 10. Ils n'auraient pas pu le faire si l'existence de ces miracles avait pu être contestée par la foule qui avait connu Jésus. Ils n'auraient pas pu faire ça. Et de fait, personne, ni Hérode, ni les compatriotes de Jésus, ni ses ennemis les plus acharnés, ne paraît avoir nié que Jésus ait accompli des prodiges. C'est aujourd'hui qu'on nie ça, pas dans ce temps-là. On conteste non pas son activité d'exorciste et de thaumaturge, mais l'autorité qu'il lui revendique en s'appuyant sur elle, car il revendique une grande autorité. Il y a 3 paroles incontestables de Jésus sur les miracles. Ce sont des événements dont aucun exégète de bonne foi ne peut mettre en doute l'authenticité, et dans lesquels Jésus indique lui-même le sens qu'il donne à ses œuvres miraculeuses. Premièrement, cette déclaration. Écoutez bien, c'est dans Saint-Luc, dans Saint-Matthieu aussi. « Si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est qu'alors le royaume de Dieu est arrivé pour vous. » Jésus affirme que cette présence efficace de l'Esprit de Dieu, du doigt de Dieu, à l'œuvre dans le monde, est introduite par sa personne même. Il dit « Je ». C'est une revendication d'un pouvoir qui, chez les Juifs, n'appartient qu'à Dieu. Il y a aussi, entre autres, cette ambassade de Jean-Baptiste, puis la réponse de Jésus, hein? « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, voyez. » Vous vous souvenez ces paroles de Jésus, hein? « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, et les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, et les sourds entendent. » Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne se scandalisera pas à mon sujet. Une telle ambassade, là, est tout à fait vraisemblable. Hérode, vous vous souvenez, c'est dans Saint-Marc. Hérode craignait Jean et il le protégeait. C'est dans Saint-Marc, ça. Alors, l'envoi de 2 disciples, ça correspond à la pratique des maîtres du judaïsme et de Jésus lui-même. Le nombre de 2, c'était destiné à protéger le message. Évidemment, il fallait qu'il y ait 2 témoins, assurer la présence de témoins, quoi. Alors nous voyons ici Jésus corriger l'idée que Jean s'était faite du Messie. Il avait annoncé celui qui devait venir, tel le Fils d'homme annoncé par Deutéronome, chapitre 7, opérer le jugement vengeur de Dieu. Il fallait donc se convertir, avait dit Saint Jean-Baptiste, pour échapper au jugement de Dieu. Mais voici que Jésus, lui, est bien différent, tout en appelant lui aussi les hommes et les femmes au pardon, il leur offre préalablement son pardon. Saint Jean-Baptiste, lui, y exigeait la conversion pour l'obtention du pardon. Mais Jésus, lui, il offre le pardon avant qu'on se convertisse. C'est le contraste, c'est évident, hein? Comme Pierre se fait scandaliser dans un an par l'annonce d'un Messie souffrant, hein? Il a pas aimé ça, lui. Jean est déconcerté ici, Jean-Baptiste, par l'image d'un Messie compatissant qui s'emploie à guérir et à pardonner. En somme, il y a toutes sortes de critères de l'authenticité, la cohérence des récits avec le style habituel de Jésus. Jésus parle avec simplicité, sobriété, autorité. Un seul mot suffit à la guérison. Pas de prodige punitif. Puis le contexte religieux des miracles, supplication du malade, appel à la foi et à la conversion. Il n'y a pas d'exploitation du miracle chez Jésus. Jésus demande aux miraculés même de se taire. Il y a tellement de raisons d'y croire. Jésus accomplit les miracles en son nom propre. Il invoque pas le nom de Dieu comme font les prophètes. Il guérit des lépreux en les touchant. C'est formidable. La guérison du fils du centurion chez Matthieu et Saint-Luc. D'un côté, le centurion vient lui-même à la rencontre de Jésus. De l'autre, il envoie vers lui un de ses amis, comme je vous ai dit au début. Et l'histoire fait constamment recours à cet argument. Une conformité trop parfaite des deux textes pourrait susciter la méfiance, tandis qu'un accord substantiel dans ce qui compte, en dépit d'une certaine contradiction, moi, mon sens, ça inspire la confiance. En tous les cas, il est impossible de conclure que les récits évangéliques de miracles n'ont pas été créés de toutes pièces par les communautés chrétiennes primitives. Non, non, non. Ce sont des faits bien attestés. Et vous savez que, dès le début de l'ère chrétienne, des auteurs païens ont parlé de Jésus ainsi Tacite, dans ses annales dont je vous ai parlé au début, qui ont été écrites vers l'an 115. Ils rapportent l'incendie de Rome sous Néron et les rumeurs selon lesquelles ce serait l'empereur lui-même qui l'aurait fait allumer. Puis il continue, voici le texte, qui date de l'an 115. « Pour mettre fin à ces bruits, Néron chercha des coupables et il infligea les plus cruelles tortures à des malheureux détestés pour leurs infamies qu'on appelait vulgairement chrétiens. Ce nom leur vient du Christ qui, sous le règne de Tibère, fut condamné au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Réprimé sur le moment, cette exécrable superstition ne tarda pas à se répandre de nouveau, non seulement dans la Judée où elle avait pris naissance, mais jusque dans Rome même, où affluent et se grossissent tous les dérèglements et tous les crimes. Des crimes, évidemment, contre la religion païenne, puisqu'ils ne veulent pas adorer les faux dieux. Et Tacite continue en disant, on commença par saisir ceux qui s'avouaient chrétiens, et ensuite, sur leur déposition, une multitude immense qui fut moins convaincue d'avoir incendié Rome que d'avoir la haine du genre humain. Que c'est épouvantable. C'est un peu comme aujourd'hui. On s'imagine que le pape déteste le genre humain, déteste les femmes, et puis que l'Église est anti-humaine, etc. On raconte les mêmes histoires, quoi. Des Tacites, il y en a beaucoup. Tacite raconte les tortures infligées aux chrétiens aussi. Il s'en indigne, mais le passage montre qu'il ne connaissait les chrétiens que par ouïe. Il répétait ce que l'opinion commune répandait, les bobards. Comment a-t-il pu connaître l'histoire de Jésus? C'est sans doute par les histoires de Pline l'Ancien, qu'il utilise souvent comme source. Or, Pline l'Ancien avait fait partie, lui, de l'état-major de l'empereur Titus lorsqu'il s'est emparé de Jérusalem, comme vous savez tous, en l'an 70. D'autre part, dans la vie de Néron, qui a été écrite 5 ans après les annales de Tacite, c'est-à-dire vers l'an 120, il y a le fameux historien Suétone, qui avait eu accès aux archives impériales, il confirme le témoignage de Tacite, il écrit « Néron a fait beaucoup de mal, mais non moins de bien. Les chrétiens, hommes d'une superstition nouvelle et malfaisante, furent mis à mort. » Bon, il y a enfin une longue lettre de Pline le Jeune, Il y a Lucien, il y a Cels, philosophe païen, le témoignage de l'historien Flavius Joseph. Oh, j'ai ça dans une très vieille édition du début du 16e siècle. Comment savons-nous que la Bible est la parole de Dieu? Il y a les musulmans, eux, qui croient que le Coran est la parole même d'Allah. Oh, la perfection qu'ils prétendent poétique du livre est pour eux la preuve que Mohammed l'a reçu directement du ciel par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Et le prophète n'a été, disent-ils, que le secrétaire de Dieu. Mais la conviction des chrétiens sur la Bible, c'est pas la même chose. Nous, nous croyons aussi que Dieu est l'auteur principal des saints livres, des livres saints qui forment la Bible. Pour nous, ce sont des lettres d'amour que Dieu a pris soin de composer à l'adresse de ses enfants. Nous savons que les livres de la Bible sont tout autant l'œuvre des auteurs qui les ont rédigés. Or, tout en inspirant très spécialement leur travail, Dieu a laissé ses auteurs, ses hommes, s'exprimer avec leur mentalité puis dans leur style, d'où l'extrême diversité de ces 73 livres que forment la Bible. Ça s'étale sur plus de 10 siècles. Et comment savons-nous que ces livres sont paroles de Dieu? Ben, c'est par l'Église. Il faut appartenir à l'Église pour comprendre ça. Celui qui ne croit pas que l'Église a reçu pouvoir de nous guider infailliblement dans les choses importantes de la foi n'a aucune raison de croire à l'origine divine de la Bible. Oui, oui, oui. C'est la première chose, il me semble, qu'il faut dire à un témoin de Jéhovah qui nous cite les paroles de la Bible pour étayer sa doctrine, alors qu'il n'a aucune raison de croire que ce livre est la Sainte Bible. D'où lui viendrait cette idée? Il faut avoir des assurances. Hein? Comment l'Église a-t-elle su que cet ensemble de livres était parole de Dieu? C'est très simple. En ce qui concerne l'Ancien Testament, l'Église n'a fait que reprendre la foi du peuple juif, la pensée de Jésus lui-même sur le caractère sacré des rouleaux là, qu'on lisait à la synagogue. Après le retour de l'exil des Juifs, plus précisément à l'époque d'Esdras, là, les Juifs avaient pris l'habitude de considérer comme un tout les cinq livres de la loi, c'est-à-dire les cinq premiers livres, la Genèse, l'Exode, les Nombres, Lévitique, le Deutéronome. Considérait aussi comme inspiré les livres des prophètes, un certain nombre d'autres écrits, notamment, évidemment, le recueil des psaumes. Les Juifs lisaient à la synagogue, le jour du sabbat, des passages de cette Torah avec la vénération qu'on attache à la parole même de Dieu. Et dans leurs assemblées liturgiques, les chrétiens continuaient à lire la Torah avec un immense respect, mais ils ont ajouté quoi? La lecture des quatre évangiles, les épîtres de Paul, de Jean, de Pierre, etc. Jusqu'au jour où ils ont réalisé que ces livres, qui remontent à l'âge apostolique, sont aussi vénérables, aussi sacrés que les saintes écritures des Juifs. Alors ils se sont mis à appeler le Nouveau Testament, cet ensemble de livres chrétiens, puis l'Ancien Testament, l'ensemble des livres du judaïsme. Et c'est à la fin du second siècle de notre ère qu'a eu lieu cette prise de conscience et qu'on a réuni en un seul volume l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est aussi à cette époque que l'Église a constitué le catalogue officiel de son Nouveau Testament et qu'elle a justement rejeté comme apocryphe quelques évangiles dont je vous ai déjà parlé, qui, d'après certains, provenaient directement de l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jacques. Mais l'Église a eu la sagesse de les juger trop fantaisistes pour être authentiques. On peut donc dire que pendant plus d'un siècle, l'Église a vécu en ignorant qu'elle possédait elle aussi sa Bible. Elle lisait les lettres de Paul, les actes des apôtres, les évangiles avec beaucoup de vénération, sans savoir encore qu'ils étaient au sens strict la parole de Dieu, tout comme les livres de la Torah. Ça peut vous surprendre. Or, il va sans dire que dans ce chapitre de ce livre de l'abbé Pierre Descouvement, on peut découvrir la valeur historique du Nouveau Testament. J'ai fait abstraction de son caractère sacré, mais on verra. Pendant le mois de décembre, je vais vous en parler. Il y aurait une pétition de principe, un cercle vicieux à prouver la valeur historique de la Bible en s'appuyant sur son inspiration divine. Parce que pour croire au caractère inspiré de la Bible, il faut, et je termine là-dessus, il faut en effet déjà croire au Christ et à son Église. Mais comment croire au Christ et à son Église si je ne m'appuie pas sur les écrits du Nouveau Testament? En les considérant d'abord comme de simples documents historiques me permettant de connaître ce qu'a fait Jésus, ce qu'il a dit, et ce qu'il a voulu. Je ne saurais trop vous conseiller de lire des ouvrages bien faits. Ceux du Père Latourelle, pour ceux qui s'intéressent à des ouvrages plus sérieux. Ou bien le Nouveau Testament, une nouvelle lecture de Jean Guiton. Ce n'est pas très long, hein. Ça se lit bien en gros caractères, 92 pages. Ou encore, peut-on éviter Jésus-Christ, un livre qui peut s'intéresser, que tout le monde peut lire, de Bernard Brault, B.R.O. Peut-on éviter Jésus-Christ? Le Père Brault me l'a envoyé il n'y a pas longtemps, avec une belle dédicace à Raymond Beaugrand-Champagne, qui sait la joie et l'urgence de redire la force de la foi qui nous tient. Ce visage, qui ne ressemble à aucun autre, ces pages en souvenir de nos rencontres heureuses, comme je m'ennuie des fois du Père Brault. On peut aussi se procurer un CD-ROM magnifique distribué par Novalis, intitulé « Jésus ». Ça se vend à peu près 70$. Un CD-ROM magnifique, « Évangile et peinture ». C'est un voyage interactif sur les pas de Jésus. Un CD-ROM magnifique, j'en ai vu des extraits, c'est de toute beauté. De toute beauté. En terminant, je crois qu'il est bon de prier 2 secondes. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste, donnez-moi ce qu'on ne vous demande jamais. Je ne vous demande pas le repos, ni la tranquillité, ni celle de l'âme, ni celle du corps. Je ne vous demande pas la richesse, ni le succès, ni même la santé. Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement que vous ne devez plus en avoir. Oh, donnez-moi ce qui vous reste. Donnez-moi ce que l'on vous refuse. Je veux l'insécurité, l'inquiétude. Je veux la tourmente et la bagarre. Et que vous me les donniez, mon Dieu, définitivement. Que je sois sûr de les avoir toujours, car je n'aurai pas toujours le courage de vous les demander. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste, oui. Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas. Mais donnez-moi aussi le courage et la force et la foi. Et ça se puise dans les évangiles.